Radio Foot International, Marie-Amélie Mott.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Foot International. La Ligue des Champions de retour, début des huitièmes de finale ce soir. FC Barcelone Paris Saint-Germain, c'est l'affiche exceptionnelle qui nous attend. Les Parisiens peuvent-ils réaliser un coup au Camp Nou, même sans Neymar et Di Maria? On attend beaucoup de Kylian Mbappé ce soir, comme de son duel symbolique avec Lionel Messi. La star argentine au cœur de toutes les attentions, comme souvent, entre les rumeurs de départ et son niveau du moment. Alors le Barça va mieux? Est-il armé pour résister au PSG? Nos consultants sont prêts à vous donner les clés du match et nous serons en direct avec Frédéric Suto, notre envoyé spécial à Barcelone. L'autre rencontre de la soirée, c'est Leipzig-Liverpool. Les Allemands solides dauphins du Bayern face à des Reds en pleine crise. Liverpool doit-il tout miser sur la Ligue des Champions? Et on terminera avec le championnat anglais, justement. Chelsea et West Ham ont dépassé les Reds au classement après leur victoire hier soir. Et West Ham, tout près du podium, ça doit vous faire plaisir. Salim Bongali, bonjour.
À peine, bonjour à Marie-Amélie, bonjour à toutes et à tous.
Et avec vous, il y a Eric Rabessandratana. Bonjour Eric.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour.
Pas trop stressé?
Un petit peu quand même, même si je suis plus serein que d'habitude, mais c'est pas toujours bon signe, alors. Non mais pas par rapport au match, par rapport au fait que bon. Fataliste.
On en parlera tout à l'heure et puis Naïm Moniol complète ce casting de rêve. Bonjour
Naïm. Salut Anne-Marie-Mélie, salut à tous.
Allez Radio Foot, c'est parti.
Mbappé qui rentre dans la surface, la frappe et le but!
Ah si, Messi qui les pégale!
Et le but de Kylian Mbappé dès la 9e minute de jeu!
Coup franc de Léo Messi! Et c'est lui qui ouvre le score!
À 100 à l'heure, évidemment, Kylian Mbappé! Messi encore! Goal!
Kylian Mbappé rentre dans la surface, il va armer, il va frapper, il va marquer! Kylian Mbappé!
Messi!
Kylian Mbappé!
Messi!
Kylian Mbappé!
Messi!
Non, je crois que non, c'est un duel.
Ce n'est pas un simple duel entre Messi et Mbappé. Nous devrons compter sur la meilleure version de Léo et le PSG en attend de même de Kylian. Ce sera un beau match pour tous les fans de football. Venez profiter de leur talent.
Venez profiter du talent de Messi et de Mbappé, nous dit Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça. La Ligue des Champions de retour donc avec cette affiche alléchante Barça-PSG, 8e de finale aller au Camp Nou. Le Camp Nou sera vide ce soir évidemment, mais on est quand même heureux de voir revenir la plus belle des compétitions européennes. Barça-PSG, le duel entre Messi et Mbappé, la guerre des étoiles comme a titré le Parisien ce matin, mais pas seulement. Rivalité entre les deux clubs exacerbée ces derniers jours par les rumeurs d'un possible transfert de Messi au PSG. Les deux équipes cette saison sont à la recherche d'équilibre et de maîtrise sur le terrain. Difficile je pense de dégager clairement un favori, on le verra pour ce premier huitième de finale. Et je voudrais qu'on parte tout de suite à Barcelone, retrouver Frédéric Suto, l'envoyé spécial de RFI, qui nous fera vivre le match tout à l'heure. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Marie-Amélie, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Salut Frédéric.
Frédéric, vous êtes arrivé à Barcelone hier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'atmosphère en ville? Bon, on n'oublie évidemment pas le contexte sanitaire, mais est-ce qu'on sent quand même qu'on est à moins de 4 heures désormais d'un très beau match?
Bah, je vais être honnête avec vous, Marie-Amélie, on ne le sent pas vraiment, mais vous l'avez dit dans la même phrase, il y a le contexte sanitaire. Hein. On est en pleine pandémie Covid-19, l'Espagne qui a été touchée de plein fouet au printemps dernier, premier confinement, et puis bah là, comme en Italie, comme en France, ça revient. Et ce soir, il n'y aura pas de public, et dans les rues, non, on n'entend pas les klaxons habituels. Alors il n'y a pas de supporters parisiens non plus, hein, quand vous avez 800, 1000, 2000 supporters adverses qui débarquent, forcément, ça fait du bruit à la gare, ça fait du bruit dans les bars, les restaurants. On ne sent pas cette effervescence monter. Rappelons qu'il y a un couvre-feu en ce moment à Barcelone, hein, qui tombe à 22h. Et là, c'est pas le couvre-feu à la française où on continue de circuler un peu dans les rues comme si de rien n'était. Là, tout le monde rentre. On a vu ça hier soir. On rigole pas avec ça. Il y a les voitures de police qui patrouillent, hein, pour vérifier que tout le monde s'y tient bien. On est masqué dans la rue. Pas vraiment de drapeau. Non, l'ambiance. Mais bon, voilà, on le sait. Il y a plus personne dans les stades. C'est le contexte sanitaire. On s'y est fait. On espère que c'est sur le terrain que ça va vibrer ce soir.
Oui, ben on l'espère aussi. Qu'est-ce qui se dit quand même à Barcelone aujourd'hui sur le PSG? Qu'est-ce qui a fait la une des journaux?
Ah bah, la une des journaux, c'est le petit générique que vous nous avez proposé. Hein. Ils sont deux à la une de Mondo Deportivo, de Sport, de Marca et AS, même les journaux madrilènes. Ils sont deux, Léo Messi d'un côté et Kylian Mbappé. C'est vraiment le duel qu'on nous annonce avec des photos à l'appui, forcément. Neymar n'est pas là, Di Maria n'est pas là non plus. Alors Mondo Deportivo, El Novamas, c'est le titre. Alejandro Valente m'a expliqué, là, il y a un petit jeu de mots, hein, ça veut dire on ne peut pas rêver mieux, mais il y a aussi l'idée, il n'y va plus, Léo Messi, il n'y va plus, où ? À Paris, et oui, il est chez nous et il reste chez nous, Mbappé reta à Messi, Mbappé qui va défier Messi, en tout cas, ce sont les deux protagonistes du match de ce soir, on nous les met en évidence, et puis quand on ouvre un petit peu les pages, forcément, on revient sur la remontada de 2017, il y a 4 ans, et ça permet d'apercevoir quelques photos du PSG de l'époque avec Adrien Rabiot notamment, hein, qui est là. Voilà, il est en photo à l'intérieur de Mondo Deportivo.
Merci Frédéric. Bon, on vous retrouve tout à l'heure, soirée spéciale sur RFI à partir de 19h59 TU, avec aussi Éric Chorin, Martin Guez et Hugo Moissonnier qui vont nous faire vivre cette belle soirée de Ligue des Champions. Messieurs, le décor est planté. Bon, on va évacuer le sujet maintenant, après on n'en parle plus. Là, Fred en parlait. Évidemment que dans les journaux du jour, on est Espagne est évoquée, la fameuse remontada. Eric, à quel point le souvenir va planer sur la rencontre ce soir ?
Je ne sais pas si ça va planer. En tout cas, Marquinhos a essayé de botter en touche en disant que voilà, c'était un mauvais souvenir, qu'il fallait avancer et faire autre chose. Alors, ils ont quand même l'occasion aujourd'hui de gommer un petit peu ça. Alors, pas forcément sur le match aller, mais sur l'ensemble des deux matchs. Donc, ça, c'est quand même une chance. Maintenant, il faut la saisir. On n'est pas forcément dans les meilleures dispositions. Voilà, quand tu perds Neymar et Di Maria, c'est deux grosses pertes. Même si je suis très content d'avoir Navas qui revient dans les buts, c'est aussi une bonne chose. Mais néanmoins, quand tu perds Di Maria et Neymar, c'est un gros potentiel offensif qui s'en va. Donc Mbappé, est-ce qu'il sera à la hauteur comme les journaux le disent face à Messi qui est en grande forme ? On va voir.
Pas le même rôle déjà, mais non, mais plus que la remontada, je pense que c'est le départ de Neymar en fait qui fait que cette rencontre là, cette rencontre sans le souffre, même si moi je préfère la bergamote, mais c'est autre chose. Mais évidemment que ce match là est particulier. Il y a eu la remontada, il y a eu l'histoire de Neymar, il y a maintenant tout ce qui tourne autour de Lionel Messi. On a depuis 3-4 ans fait du PSG et du Barça des rivaux qui ne se voient qu'en Ligue des Champions, mais ça c'est autre chose.
Des ennemis même.
Voilà, des ennemis, voilà, en Ligue des Champions, ce qui est complètement ridicule. Je pense que la pire chose qui puisse arriver au PSG, c'est de tomber là-dedans.
Ouais,
d'essayer de se faire avaler par le contexte, de se mettre une pression complètement inutile, Messi, Neymar, Patin, Couffin. L'idée c'est le PSG dans une meilleure forme que le Barça dans une meilleure forme que le PSG. C'est indéniable. Aujourd'hui, je vois le Barça jouer sur 3-4 matchs, je vois ce que le PSG montre depuis le début de la saison collectivement. Pour moi, le Barça est plus fort. C'est indéniable. Maintenant, je me dis, derrière, ils ont des carences réelles,
ouais,
visibles, importantes,
venir, ouais,
qui, même sans Neymar, même sans Di Maria, permet à l'armada offensive du PSG, que ce soit Keane, que ce soit Icardi, que ce soit Mbappé, machin, d'en profiter, de faire un résultat, ouais, au Camp Nou.
Juste pour compléter le propos par rapport au cas Neymar, c'est lui-même qui tweetait ces dernières heures en disant ce match est dans le top 3 des matchs que j'aurais voulu jouer. Donc ça veut dire que lui-même le regrette, et comme quoi lui aussi il aurait peut-être sans doute même voulu jouer au Camp Nou et montrer qu'il est bien parti du Barça.
Bon, en même temps, il est pas là-bas à cause de lui-même. Hein. Donc, je comprends sa déception. Ça, ok, il y a pas de souci. Sauf que il a pas non plus tout fait pour se retrouver sur le terrain aujourd'hui.
Ouais,
donc,
vous parliez de rivalité, Eric. Vous disiez que même on pouvait parler des deux équipes comme deux équipes ennemies. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match un peu chaud avec beaucoup d'agressivité sur le terrain ?
L'avantage pour faire redescendre un peu l'animosité, c'est qu'il n'y ait pas de public. S'il y avait eu un peu du public, certainement, ça aurait pu rester un petit peu plus haut. Je pense que sans public, ce sera moins impressionnant qu'avec du public.
Juste quand on parle de rivalité, parce que vous l'avez utilisé, le mot « ennemi ». Moi, j'entends ça, il y avait des supporters du PSG qui étaient, il y a quelques jours, au camp des loges pour essayer de booster leurs joueurs avec des banderoles peu amicale, on va dire, concernant le Barça. Enfin, moi, quand j'entends parler de rivalité, elle est où? Pardon. Alors oui, il y a eu des matchs, il y a eu des histoires. Mais j'ai l'impression comme si on les mettait au même, enfin, que les supporters se mettaient au même niveau que le Barça. Alors j'ai envie de dire, non, on n'est pas du tout dans la même catégorie d'équipe, quoi.
C'est pas une histoire de sportif.
Ce qu'on entend, c'est les Parisiens.
C'est pas une histoire de sportif. C'est comme quand on parle de la rivalité Paris-Marseille. Sportivement, ça fait des années que ça n'existe plus. Tout ça est une construction très médiatique et vous avez absolument raison. Mais il n'empêche que depuis 3-4 ans, les actualités sont liées. Que ce soit pour des histoires de transfert.
Oui,
on parle de Neymar, de Messi. Aujourd'hui, régulièrement, vous avez le Barça qui essaie d'acheter la moitié des mecs du PSG qui ont fait des propositions. Tout ça tourne autour de là. Et puis un coup, Neymar, il vient, il revient pas, il s'en va, il reste. Et puis maintenant, c'est Messi qui doit arriver. Bien sûr que sportivement, d'un point de vue de l'institution, de l'histoire, du palmarès, on est sur deux planètes complètement différentes. Ça, c'est absolument vrai.
Une grosse institution et un club sont qualifiés de nouveau riche.
De nouveau riche, mais qui deviendra peut-être, je lui souhaite au PSG de devenir une institution, mais qui en tout cas aujourd'hui n'en prend pas le chemin dans son comportement en tout cas, qui ne fait pas tout pour en devenir une.
Alors ce soir, ça va être un premier gros test pour Mauricio Pochettino. Il se sait très attendu et l'entraîneur parisien parle même de responsabilité vis-à-vis des supporters.
Nous avons signé il y a une quarantaine de jours à Paris et nous avons très vite senti l'engouement suscité par ce match au sein du club. Clairement, l'objectif du PSG, c'est de gagner la Ligue des Champions. Nous avons une responsabilité et les supporters attendent avec impatience ces rencontres européennes. Je reste calme, le passé c'est le passé. Nous sommes ici avec un groupe de joueurs différents. L'objectif, c'est de faire mieux, de faire progresser le club, de franchir un cap.
Franchir un cap, c'est pour ça qu'il a été recruté, Mauricio Pochettino. Selon vous, dans quel état d'esprit il doit aborder le match? Qu'est-ce qu'il doit dire à ses joueurs?
Déjà, il doit faire abstraction de ce qui s'est passé avant. Ça, c'est important parce qu'en fait, rester là-dessus et essayer de s'appuyer là-dessus, c'est pas bon parce que lui, il arrive, donc il n'a pas vécu réellement la chose, même si c'est un ancien joueur et qu'il peut, savoir ce qui s'est passé, mais. Lui, il doit repartir sur du nouveau, du sportif où là, on doit répondre à un challenge.
Et
lui,
c'est son gros challenge. Il a eu peu de temps pour préparer ce challenge.
Exactement, il n'a pas eu beaucoup de temps, ça fait un mois. Néanmoins, voilà, c'était le challenge pour lui aussi de passer ce cap. Il savait très bien que quand il arriverait au Paris Saint-Germain, il allait jouer ce match contre Barcelone et qu'il devait préparer cette équipe pour jouer ce match contre Barcelone. Donc là-dessus, il sera jugé aussi. J'espère que... Moi, ce que j'espère derrière tout ça, c'est que si ça se passe pas très très bien, qu'il ait le bon discours. Parce que c'est ça qui...
Ce serait quoi le bon discours?
Le bon discours, c'est de prendre le recul par rapport à tout ça et qu'il reste un autre match derrière. D'abord de faire le maximum sur ce match-là, parce que bon, je fais pas abstraction de ce match. Mais il faut se mettre dans les meilleures dispositions pour que le match retour soit fantastique pour les Parisiens.
Le problème de Pochettino, c'est qu'il est arrivé, on lui a donné un outil formidable, le PSG a des joueurs magnifiques, mais au final, ça marche pas bien. C'est-à-dire que collectivement, ça marche pas bien.
C'est pas une équipe.
Il y a des individualités qui ne sont pas à leur niveau, il y a des problèmes au milieu de terrain, on joue à deux, on joue à trois, qui, dans quelle position, machin. Et finalement, jusqu'à présent, il arrivait à s'en sortir globalement, même s'il a perdu des matchs en Ligue 1, il arrivait globalement à s'en sortir parce qu'il avait Neymar, qui sur 10-15 minutes, quand il avait envie de jouer, plier le match à lui tout seul ou quasiment, et puis c'était réglé. Le problème, c'est que là, il n'y a pas Neymar. Et là, aujourd'hui, Pochettino va devoir faire quelque chose qu'il n'a pas fait pour le moment à Paris, c'est-à-dire essayer de trouver une formule pour que ce soit le collectif qui marche, et pas pour que ce soit une, deux individualités qui en tirent deux autres, et que les deux autres, quand elles arrêtent de jouer, ça soit deux autres. Non, là, il va falloir que ça marche ensemble, et pas à 11, à 14, à 15, à 16. C'est là-dessus qu'il va être jugé. Donc c'est déjà un gros test pour lui, c'est une grosse pression.
Et pression complémentaire aussi sur un joueur, notamment, on évoquait le cas Kylian Mbappé, c'est typiquement l'illustration de vos propos, Naïm, c'est que souvent, il veut prendre ses responsabilités et les prendre pour lui, tout seul presque.
Trop.
Et c'est le souci où il veut presque être dans l'imitation de Neymar vouloir débloquer à lui tout seul. Mais c'est là où on l'attend. Messi, souvent, il arrive à faire les choses tout seul et quand il n'y arrive pas, il arrive à faire la bonne passe qu'il faut pour les Griezmann, Dembélé et autres. C'est là où Mbappé, on va devoir l'attendre et devoir lui montrer qu'il est le grand joueur.
Le problème, c'est qu'Mbappé Mbappé n'est pas un meneur de jeu.
Ça, c'est sûr.
C'est qu'Mbappé n'est pas un créateur et qu'aujourd'hui, on a un deuxième qu'il va falloir juger sur pièce, c'est Verratti, qui va être mis numéro 10. Vous vouliez en parler peut-être, non?
Bah oui, mais c'est justement la grande question, ça va être le positionnement de Marco Verratti. Est-ce qu'il va jouer devant la défense ou est-ce qu'il va jouer.
Alors là, il y a deux réponses. Il y a le positionnement auquel va le mettre Pochettino, qui est très certainement celui de numéro 10, de meneur de jeu, d'organisateur.
Pour le coup, il le fait en Ligue 1.
Voilà. Et puis, il y a celui auquel il va rapidement revenir, qui est son poste préférentiel et qui est un petit peu plus devant la défense. C'est pour ça que là, le vraiment, il va falloir se focaliser sur le comportement, les mouvements de Verratti dans ce match. Les fois où il a été mis numéro 10 au tout début du mandat de Pochettino, sur les premiers matchs, quand il est mis numéro 10 derrière l'attaquant, il y est 10-15 minutes, il y est par à coup, parce qu'il a des qualités techniques qui lui permettent d'organiser le jeu. Mais rapidement, il revient derrière, il se remet devant, au milieu, bien sûr.
Il a les automatismes à jouer devant la défense. Et donc là, jouer un petit peu plus haut. C'est pas le même rôle. Il est capable de le faire. En fait, il faut simplement qu'il joue comme il joue habituellement en 6 et qu'il joue.
Verratti et oui, mais c'est pas un 6 comme l'était Thiago Motta.
Je sais. Oui. C'est pour ça que je te dis que lui, il organisait le jeu déjà derrière.
Quand il a le jeu face à lui. Quand t'es numéro 10, t'es quand même amené à être dans des positions où t'es soit 2-3 quarts, soit dos au but adverse. C'est pas les mêmes appuis, c'est pas le même circuit de passe. Il a une qualité technique qui lui permet de jouer court et de s'en sortir quand il est pressé. Mais c'est pas le même positionnement, c'est pas le même jeu. Et c'est pour ça qu'il va falloir aussi regarder qui est aligné autour de lui. Est-ce que c'est Paredes, est-ce que c'est Danilo?
Paredes, obligatoirement.
Je rappelle, on vous évoquait Verratti, Paredes, deux joueurs qui, s'ils se prennent un jaune, ils sont pas là pour le retour. Et ça aussi, forcément, inconsciemment, ça va compter aussi dans leur tête.
Donc ils sont pas là pour le retour.
C'est sûr. Je ne vois pas comment ils vont prendre deux cartons sur un match comme ça.
On vous évoquait la double confrontation, vous évoquiez peut-être le discours que Pochettino doit tenir à ses joueurs potentiellement à l'issue de ce match aller. Mais imaginez au retour, vous n'avez pas Verratti, vous n'avez pas Paredes, c'est tout d'un coup plus tout à fait le même match.
Si t'as pas les deux, oui. Mais si t'en as un des deux, tu peux encore te débrouiller.
C'est déjà beaucoup.
Face au Barça, vous pensez que Paris peut se permettre d'évoluer avec juste deux joueurs devant la défense?
Moi, je pense surtout que Paris va pas faire le jeu. Paris va attendre le Barça et va jouer en contre.
Va laisser la position.
Parce que de toute façon, faut pas se voiler la face. C'est la meilleure chose qui puisse faire contre le Barça aujourd'hui, sans Neymar, avec un Verratti un petit peu plus haut. On ne sait pas si c'est Sarabia. Il veut peut-être pas mettre Keane avec Icardi. S'il met Sarabia, je ne sais pas dans quelle disposition il est. Il était un petit peu mieux, mais il y a plein de choses, c'est plein d'inconnus. Il ne va pas mettre Draxler, ça c'est sûr.
Et quand on évoque ces situations contre, il faut aussi évoquer la défense du Barça. Parce que là, pour le coup, on a une défense qui est fragile, avec des joueurs qui sont un ton en dessous, pour ne pas dire 10 tons en dessous, qui dorment tels des marmottes. Enfin, à un moment donné, on se dit...
Il y a des choses à faire.
Mais est-ce que justement le profil explosif de Kylian Mbappé et de toute l'attaque parisienne en général n'est pas un peu parfaite pour exploiter ces failles-là au Barça?
Elle est parfaite, sauf que il va falloir contenir les assauts de Barcelone parce que Barcelone offensivement c'est très bon aussi.
Barcelone, t'as raison, et tu sais que ce qui va tourner à fond les gamelles à Barcelone, c'est les côtés. Tu sais qu'à droite, t'auras Dembélé qui est peut-être dans la forme de sa vie à Barcelone. J'ai jamais vu aussi fort à Barcelone, en tout cas. Tu sais que côté gauche, tu vas avoir Jordi Alba qui est quasiment un deuxième ailier, en tout cas qui joue très très haut, et que le PSG qui va arriver avec trois milieux avec de la densité dans l'axe, va aussi falloir qu'il apprenne à défendre sur les côtés. Le choix des latéraux va être aussi très important parce que évidemment, Florenzi Kurzawa, ça paraît naturel, mais est-ce qu'à un moment donné, il va pas falloir peut-être en sortir un des deux? Selon le score, pour en mettre un qui est un peu plus défensif, qui va serrer un peu plus, ou alors passer à trois centraux et essayer d'élargir un peu ton champ d'action sur les côtés, parce que les côtés à Barcelone, ça va à 2000 à l'heure. Ils tournent tous.
Je suis d'accord avec toi, sauf que le choix que tu veux plus défensif, c'est Kerrer. Et Kerrer, en termes de confiance.
Mais en tout cas,
moi, j'ai pas confiance en Kerrer, je le dis tout de suite.
J'ai entre guillemets confiance dans les situations de contre que le PSG aura face à cette défense du Barça. J'insiste, que ce soit Umtiti, Piqué, Lenglet, ce sont des joueurs qui sont largement en dessous aujourd'hui, et face à ces joueurs-là, Piqué, c'est sûr que le PSG en aura.
C'est ça, la défense du Barça en difficulté, c'est pour vous, c'est uniquement lié à des défaillances individuelles en ce moment?
Le problème, alors j'ai envie de dire collectif, mais beaucoup individuellement parlant.
La défense centrale déjà, c'est sûr.
Oui, parce que on n'arrive même pas à définir Piqué qui revient dans le groupe. Naïm le disait en avant émission,
il n'a pas joué depuis 21 novembre.
Depuis fin novembre, il a pas joué, là on est quand même mi-février, 3 mois sans jouer, et le match en question c'est pas un match face à Alavés, c'est tout de suite on vous met face au PSG, donc il y a lui, il y a les incertitudes entre Umtiti qui est aujourd'hui pas dans la forme de sa vie, loin de là, l'anglais également, enfin vous avez des individualités qui sont tellement défaillantes. Oui, le PSG a ses chances.
À droite, Serginho Dest a joué 5 matchs en 2021, il a notamment joué que 18 minutes face à Alavés, donc en gros c'est le secteur qui est défaillant. C'est pour ça que moi je suis confiant, parce que je me dis derrière le PSG, la Marquinhos, il a Kimpembe.
Ouais, déjà,
c'est du très solide. Deux, ouais. C'est du très très solide. Offensivement, le Barça c'est très fort. Derrière, c'est quand même pas terrible. Puis vous avez au milieu, vous avez De Jong, vous avez Pedri. Alors tout ça est à mettre en rapport avec le scénario du match. Ils sont menés 2-0 au bout de 20 minutes. Peut-être que ça va changer. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de joueurs offensifs à Barcelone qui vont être portés vers l'attaque. Un Busquets qui est très lent. C'est un sénateur. Il joue dans un fauteuil.
Ils vont pas être portés vers le travail défensif aussi. Attention.
En plus, et il est pas super rapide. Et vous avez une défense à la ramasse. Si vous prenez au PSG les joueurs qui tournent bien aujourd'hui, Mbappé, bon, c'est la star, c'est machin. C'est surtout Moïse Kean. Moïse Kean sur un match comme ça, avec sa rapidité, son volume de jeu, face à une défense qui est faible, qui est pas bien organisée, faut le mettre.
C'est
peut-être
ça.
Pas titulaire, mais va falloir le mettre. Si tu veux jouer, laisser le ballon à l'adversaire et jouer en contre.
Kean et Icardi, c'est compliqué.
Non, c'est pas compliqué. Non, en plus, on a vu sur le dernier match qu'il y avait même avec Mbappé, ça commençait à ressembler à quelque chose. Donc, je suis pas sûr qu'ils mettent les trois, mais non. en tout cas, voilà, il y a une relation qui peut être intéressante à un moment donné si jamais tu es moins bien dans le.
Si tu pars du principe que le PSG va laisser le ballon au Barça et jouer en contre, ce qui fait très bien d'ailleurs, notamment pour mettre Mbappé dans les meilleures dispositions, faut aligner Moïse Kean. Moïse Kean, d'abord, il a du volume de jeu. Tu sais qu'il va revenir défendre. Il défend peut-être pas toujours très bien. Il est peut-être un peu foufou. Il fait peut-être des fautes. Mais tu sais qu'il a du volume de jeu, qu'il fait des courses vers l'arrière, qu'il est rapide, qu'il prend l'espace. Ouais. Il est altruiste, hein. Lui, il va pas croquer
bien
la
sûr.
Feuille pour lui. Hein. S'il peut donner le ballon, il va le donner.
Et il donc, l'a fait, hein.
Il le fait. Donc, ça serait pas cohérent d'avoir un type qui a peut-être, en 2021, et même depuis son arrivée au PSG, le ratio but-temps de jeu le plus élevé de l'équipe. Et qui, en même temps, sur peut-être le match jusqu'à présent le plus important, il joue pas. Ça serait pas cohérent.
Mais tout a été dit, si ce n'est que.
Vous voyez acquiescer.
J'acquiesce et j'insiste vraiment que ce soit Kean. Kean, pour le coup, on a envie aussi de le voir.
Oui.
J'ai envie de dire, il a été notamment décisif face à Başakşehir, notamment lors du match aller, une victoire en Turquie. C'est là où peut-être ça peut être son premier très très grand match, j'entends. À la Juve, certes, il avait performé, mais c'était en championnat face à des équipes moindres. À Everton, sa chance, il ne l'a jamais eu. Au PSG, certes, Başakşehir ou des matchs de championnat, mais là encore, dans des rencontres moindres malgré tout. Là, c'est son premier grand moment, s'il est titularisé, de se montrer et de montrer toutes ses qualités.
Le plus dur qu'il a eu à jouer, pour lui, c'était Manchester, où c'était pas génial, mais sinon, le reste, tout ce qu'il a fait dans tous les autres matchs, il a été très intéressant et ou décisif par son travail, ou décisif par une passe ou par un but. Donc c'est un joueur très important du Paris Saint-Germain, c'est sûr.
Bon, on a passé en revue toutes les atouts offensifs du PSG. Côté barcelonais, évidemment, la menace numéro un, c'est Lionel Messi. Messi qui impressionne toujours autant ses coéquipiers. Écoutez ce qu'en dit Ousmane Dembélé.
Léo, c'est le génie, on connaît tous. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il m'a inspiré dans ma jeunesse, il m'inspire maintenant. Et franchement, c'est un honneur pour moi de jouer avec lui. Et en plus, jouer avec lui, c'est facile, j'ai l'impression. À chaque fois, il trouve de bonnes passes, il essaye de te mettre dans de bonnes conditions. Il peut en avoir qu'un, façon, dans le football, je pense.
Un seul comme lui, dans le foot.
Il y en a qu'un, c'est sûr.
Ouais. Bon, il est toujours autant indispensable à Barcelone. 19 buts et 8 passes décisives cette saison pour l'Argentin. Il est quand même plus en forme là, depuis le début de l'année que ce qu'il a été cet automne. Comment vous l'expliquez ?
Bah, c'est la grande compétition arrive, donc mais c'est un peu comme les grands clubs, c'est-à-dire comme le Real Madrid qui peut pas traverser des moments difficiles ou même le Barça juste avant qui était pas très bien sur ce début de saison et qui bah là aujourd'hui revient mieux. Alors il y a quand même des absences, mais voilà. Mais si ça fait 8 matchs à peu près qu'il est très décisif.
Savoir ce qui se passe dans la tête.
Et puis aussi, il est peut-être en train de se préparer à partir.
Savoir ce qui se passe dans la tête de Messi, c'est chercher l'aiguille dans la motte de foin. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais j'ai gagné. non, mais Messi arrive à un moment donné où je ne crois pas qu'il ait digéré tout ce qui se soit passé avec la direction du Barça. Je pense très sincèrement que l'idée de quitter le club est toujours là. Par contre, il sait aussi quelque chose. D'ailleurs, c'est un compétiteur. Et je crois pas que le voir le Barça en déliquescence, comme on l'a pu le voir sur certains matchs en première partie de saison, je crois pas que ça lui plaise, même s'il a envie de se casser. Et puis, tu sais, je pense un truc, c'est un bête de compétiteur. C'est la Ligue des Champions.
Je suis pas sûr que ce soit pour le club qui fasse ça. C'est simplement pour lui, parce qu'il aime la compétition.
C'est un compétiteur.
Et que, voilà.
Impossible de penser que là, il va être un petit peu perturbé ce soir.
Non.
Et il aime la compétition. Et surtout, n'oublions jamais, sur ces dernières années, le Barça reste sur des grosses défaillances.
Oui,
depuis
vrai,
la fameuse remontada face au PSG. il y a eu des grosses déroutes, la Roma, la Juve, Liverpool,
le Bayern l'année dernière, 8-2 en quart.
Donc, à un moment donné, Messi, il a envie de se montrer et de montrer qu'il peut de nouveau gagner cette Champions et être leader.
Et puis, il y a quelque chose qu'on évoque très rarement quand on parle de Messi, c'est qu'on parle Manchester City, on parle PSG, peut-être qu'il va plier les Gaules, rentrer au pays, aller jouer à l'Estudiantes, je ne sais pas quoi, et puis la Ligue des Champions, c'est peut-être la dernière. Et ça aussi, dans sa tête, quand tu as été 15 ans le meilleur joueur du monde, ou presque, ou en tout cas un des deux, ça te trotte quand même. C'est pour ça, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe dans sa tête, dans son entourage. C'est un garçon un peu fermé qui communique pas des masses, même s'il communique un peu plus, surtout la saison dernière, il faisait beaucoup d'interviews, ainsi de suite. Donc c'est pour ça, mais sur un match comme ça, PSG, pas PSG, transfert, pas transfert, huitième de finale de Ligue des Champions, je serais surpris de le voir marcher au bout de 10 minutes. Quoi.
Ouais, et son association avec Pedri en ce moment fait des merveilles. Pedri, c'est la révélation de la saison côté catalan. Ça lui a fait du bien, à Léo Messi, de trouver un joueur dans son effectif presque à la hauteur de son talent.
Alors, à la hauteur de son talent, enfin, je sais pas.
En devenir, oui,
disons,
oui, pardon.
Disons que si vous prenez les deux, il y a eu deux moments forts dans la saison de Lionel Messi, dans le jeu. En tout début de saison, quand il y avait Ansu Fati, avec qui il s'entendait très bien.
Qui ne sera pas là d'ailleurs ce soir.
Qui ne sera pas là, bien sûr. Et aujourd'hui avec Pedri.
Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'il aime bien développer ce genre de relation.
Bien sûr,
oui,
mais
il n'a pas forcément développé avec Griezmann.
Il n'a pas forcément. Voilà. Un peu plus, mais peut-être parce que Griezmann se prend un peu moins pour un joueur majeur et qu'il a peut-être accepté d'être un petit peu plus dans l'ombre. Mais c'est vrai que Pedri, comme De Jong, comme Ansu Fati, c'est des joueurs qui ont un profil technique très fin, porté vers l'attaque, qui aiment le jeu, les petits espaces. Pour Messi, ça, c'est ses partenaires privilégiés, hein, y a pas de problème.
Un mot sur Griezmann et Dembélé, vous en avez un petit peu parlé, mais eux particulièrement peuvent faire mal au PSG. Donc ils jouent tous les deux sur les côtés, mais ils ont pas du tout le même rôle.
Non, mais pour le coup, en plus Griezmann a quand même un rôle et un feeling plus buteur que Dembélé forcément. Mais c'est affolant. J'ai l'impression qu'on pourrait presque ressortir les mêmes enregistrements qu'il y a un an ou deux ans. Mmh. À chaque fois au moment du tirage au sort ou quand on voit le PSG tomber face à une équipe, on se dit. Bon, le PSG est largement au-dessus, l'équipe en face est hors de forme. Et deux mois et demi après, ça change totalement.
Oui,
au final, on a quasiment du 50-50. Et là, c'est encore le cas, voire même l'équipe adverse qui passe devant, en tout cas au même niveau. Et cette ligne d'attaque, notamment, à l'époque, Messi était en dessous et les deux Français étaient hors sujet. Et là, aujourd'hui, Dembélé est dans une forme olympique. Griezmann, qui enfin comprend qu'il est en dessous de Messi et qui doit bosser pour Messi, et que Messi bossera pour lui quand il le faut aussi, ben tout d'un coup les trois se trouvent et ça devient tout d'un coup beaucoup plus dangereux et même le Barça s'est relancé pour pourquoi pas la deuxième place.
Et puis il y a un truc, c'est que par rapport au profil de tous les joueurs offensifs que tu as à Barcelone, Dembélé amène de la variété.
Bien sûr.
C'est-à-dire que
c'est le seul véritable ailier,
c'est surtout que les autres, c'est surtout des joueurs de ballon, petits espaces, petits circuits, on enchaîne, on bouge. Lui, il est capable de prendre le ballon, de le pousser de 20 mètres et d'accélérer et de manger la ligne pendant une heure et demie. Ce que faisait un peu Gareth Bale quand il jouait au foot à Tottenham, à l'époque.
Ce que faisait aussi Henry, ce que faisaient d'autres joueurs qui sont déjà passés par Barcelone.
Le PSG, c'est évidemment préparé à jouer Messi, c'est préparé à jouer Griezmann, c'est préparé à jouer une équipe qui est mobile, qui joue au foot, qui redouble les passes avec de la variété. Mais ils sont peut-être moins à l'aise face à un type qui, lui, peut enchaîner les allers-retours sur son côté. Parce que sur son côté, il va y avoir Kurzawa. Hein.
Et qui est beaucoup dans l'improvisation aussi.
Et surtout beaucoup dans le jeu offensif et beaucoup moins dans le jeu défensif. Il a plus d'absence. Et ce qui m'inquiète,
va mieux quand même sur le repli.
Non, ça va mieux. En fait, c'est un joueur qui correspond tout à fait à ce que veut faire Pochettino. C'est-à-dire que Pochettino, il veut jouer avec les latéraux très hauts et qui participe énormément. Alors lui, il aime ça. Il adore ça. Et je pense qu'il peut jouer comme ça. Sauf qu'il y a un travail défensif à faire. Ouais. Et là, sur le travail défensif, il est moins performant. Et surtout, la relation avec Kimpembe, qui doit faire la couverture avec Kurzawa et qui ne le fait pas bien depuis sa formation de jeune, ça peut poser un problème sur des joueurs qui vont profiter de cette... pas de mauvaise relation, mais de tout à l'heure,
tu disais, à droite, si t'as pas Florenzi, c'est Kerrer, c'est pas terrible. Le problème, c'est qu'à gauche, si t'as pas Kurzawa, c'est Baker. Pas Baker, c'est Diallo. Et qu'ils ont chacun leur qualité, chacun leurs défauts. Mais que les trois, tu peux quand même, c'est pas des joueurs que tu mets dans un huitième de finale de Ligue des Champions face à Barcelone. Et que l'absence de Bernat, qui est longue, hein, on découvre pas l'absence de Bernat, évidemment. Mais ça reste quand même un vrai problème majeur pour cette équipe.
Bon, avant de passer à l'autre match de la soirée, un petit pronostic, messieurs. Naïm?
2-1 pour le Barça.
Eric?
2-1 pour Paris.
3-1 Barcelone.
Ok, et moi je dis 1 partout. Très bien. Bon, allez, Leipzig, Liverpool.
Bon,
petit air de violon hongrois proposé par Laurent Salerno pour lancer cette séquence Leipzig-Liverpool. Alors pourquoi hongrois ?
Et un autre.
Voilà, parce que le match va se dérouler à Budapest en raison du contexte sanitaire. Les Anglais ne pouvaient tout simplement pas rentrer sur le territoire allemand. À quel point le fait d'évoluer sur terrain neutre, ça va jouer ? Et surtout pour Leipzig qui était censé recevoir ?
Ça joue simplement sur les repères par rapport à Leipzig, parce que c'est pas son terrain. Mais sinon, en termes de supporters ou de monde dans le stade, ça change rien.
Ouais.
Après, c'est surtout ça. Quoi. Alors après, est-ce que c'est important ?
Oui, puis je suis pas sûr qu'on
puisse. Pas sûr non plus. Ouais.
Vu les images hier de Bielefeld Munich, je suis pas sûr que la météo en Allemagne soit mieux qu'en Hongrie.
Ouais.
Donc bon, très sincèrement, ça change pas énormément.
Non.
Alors, cette rencontre entre Leipzig et Liverpool sera le premier match officiel entre les deux équipes. Deux équipes qui n'abordent pas du tout la rencontre dans les mêmes conditions. Liverpool va mal en ce moment, très mal. Troisième défaite consécutive ce week-end, 3-1 contre Leicester. Les Reds se sont écroulés après avoir ouvert le score. Salim, pour toi, quelle est l'explication numéro 1 ? Quelle est la raison principale des difficultés de Liverpool en ce moment ?
On la cherche, cette raison, parce qu'il y a ces raisons, en fait. On peut
en parler sans dire
qu'une seule, parce qu'on évoque les blessures à juste titre, des blessures parfois longue durée. Le Van Dijk qui, on va dire, cristallise ce côté blessure, parce que depuis qu'il n'est pas là, on est en train de bricoler en défense centrale avec des milieux qui sont obligés de devenir des défenseurs.
On fait monter
des défenseurs jeunes.
Je rappelle juste la liste des blessés: Van Dijk, Gomez, Matip, Keita, Fabinho et Jota.
Voilà, donc déjà défensivement, vous les avez évoqués, on fait monter des défenseurs qui malheureusement ne sont pas encore au niveau Rhys Williams notamment ou Nat Phillips qui sont des jeunes au final. Même Salah, Mané, Firmino qui sont évidemment et qui forment un trio génial, mais parfois on a l'impression qu'ils sont un peu en dedans et on n'arrive pas à les concurrencer, en tout cas à les mettre en concurrence. Diogo Jota l'avait très bien fait lorsqu'il était arrivé en étant le quatrième larron et en faisant un peu bouger les lignes. Lui aussi il n'est pas là, et c'est pas Origi malheureusement qui fait bouger cette ligne là ou Shaqiri. Donc vous avez les blessures, vous avez les défaillances individuelles, ça arrive aussi des joueurs qui sont un ton en dessous. Vous avez une fatigue chronique, parce qu'au final Klopp, qu'on le veuille ou pas, il n'arrive pas à faire tourner son effectif. On a quasiment toujours le même 11, mis à part les blessés, vous avez toujours le même 11. Tout ça additionné, peut-être une perte d'influx et une perte de volonté, parce que
dynamique,
vous avez tout gagné. Est-ce que vous arrivez à vous renouveler ? Tout ça fait que vous avez un Liverpool qui est défaillant.
C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous sentez de la démobilisation, voire peut-être du découragement
On sent moins de détermination dans les actions ou dans le jeu développé par Liverpool. Le gros problème, c'est quand même défensivement, c'est une catastrophe. Ils font des erreurs, c'est un truc de fou. Entre Alisson qui fait des cadeaux surprises.
Alisson, il en a fait 3 en 2 semaines.
C'est un truc de fou.
Pour ça,
non seulement ça, si on enlève déjà les 3 d'Alisson, peut-être que ça peut changer déjà un ou deux résultats.
Ouais.
Plus les mecs qui dorment derrière, qui sont dépassés par des fautes de marquage, des choses comme ça dans le jeu, c'est un truc de fou. Donc il y a ce gros problème, et il y a surtout, il y a Salah et les autres. Parce que là, c'est Salah, il est au top. Et après, Firmino et Mané sont très loin. Sont très loin de Salah. C'est pour ça qu'il y a aussi la relation, elle est un peu différente.
Salah, 23 buts cette saison, et Mané 10 et Firmino seulement 6.
Il y a un facteur aussi, c'est que quand pendant 2 ans, 3 ans, vous avez été une machine terrible dans tous les secteurs de jeu, que vous avez été connu, reconnu pour votre puissance, que même des équipes comme City ou que des équipes en Coupe d'Europe, comme le Bayern ou autres, reculaient devant vous, et qu'aujourd'hui, vous voyez que même des équipes comme Burnley, comme Brighton, qui vont aller les chercher, qui vont aller leur rentrer dedans, qui vont leur poser des problèmes, qui ne vont pas forcément les battre. Je parle des deux qui ont gagné, mais je pourrais aussi vous parler de Sheffield ou autre, Newcastle, qui ne vont pas forcément les battre, mais qui vont les mettre en difficulté. J'ai l'impression que cette équipe-là, elle n'a plus l'habitude de souffrir. Elle n'a plus l'habitude de voir que les équipes d'en face jouent. Parce que pendant 1 an et demi, 2 ans, vous avez tellement tout dominé, tout dépassé, roulé. Ils ont tellement roulé sur tout le monde qu'aujourd'hui, vous voyez une équipe qui est 15e, à qui il manque la moitié de l'équipe, qui joue le maintien, ils font monter des jeunes, des mecs de championship, et les mecs, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ils jouent dans votre camp, ça vous perturbe. Et ajoutez à tout ce qu'on dit, Salim Eric, les errements défensifs, les erreurs d'Alisson, qui sont incroyables depuis 2 semaines. À un moment donné, c'est...
Et j'ajoute encore une fois aussi une autre thématique, les défaillances presque mentales. Quand on prend les 3 buts en 7 minutes face à Leicester...
C'est ce qui me vient en tête, là, on vous entend parler, c'est qu'il y a un problème.
Ah, oui, 3 buts en 7 minutes face à Leicester, 3 buts en 10 minutes face à City, alors que contre City, à 1-1, ça joue pas mal, Liverpool, ça joue bien, et tout d'un coup, vous prenez le deuxième but, et bim, Leicester, tout d'un coup, vous vous évanouissez aussi. À un moment donné, là encore, on évoquait la lassitude mentale, physique, psychologique, tout ce que vous voulez, mais ils ont presque peur de leur force.
Et quelle est la responsabilité du Jürgen Klopp là-dedans ?
Le problème, c'est que Klopp, encore une fois, il fait avec ce qu'il a comme arme. J'entends par là, comme joueur, il a tellement de joueurs qui ne sont pas là qu'à un moment donné, il est obligé d'en faire monter certains. Et les défaillances individuelles, c'est pas de sa faute. Quand Alisson fait ses trois erreurs-là, c'est pas de sa faute. Kabak, le jeune Turc, il arrive, on a envie de le faire jouer parce qu'il a de ses qualités. Et il se loupe avec Alisson. J'insiste, mais à un moment donné, Klopp, on peut pas le critiquer d'ailleurs. Les supporters continuent de soutenir parce que après ces trois défaites, il y a eu d'autres supporters ou des personnes qui commencent à dire « Ah, mais Klopp, faudrait peut-être le dégager, etc. » Et il y a eu des banderoles qui ont été mises autour d'Anfield, des banderoles de soutien envers Klopp. D'ailleurs, Klopp a remercié ces supporters-là. À mon sens, aujourd'hui, vous pouvez pas être là à critiquer Klopp, en tout cas à dire c'est la faute de Klopp.
Et les joueurs sont toujours derrière lui.
Oui. Klopp a été tellement un soutien de ces joueurs-là, justement, à les maintenir dans le 11. Après, est-ce que certains qui sont régulièrement sur le banc sont toujours eux pleinement derrière Klopp? Parce que malgré ces résultats-là, Klopp continue de ne pas faire tourner ses joueurs. Et au final, les Origi, Shaqiri, Oxlade, et tous eux restent sur le banc.
Est-ce que c'est pas une histoire de est-ce qu'ils sont toujours derrière Klopp? C'est est-ce qu'ils sont encore à Liverpool dans leur tête. C'est surtout ça. Il y en a peut-être qui voient leur avenir peut-être ailleurs. Vous savez, on parle de l'entente Salah, Mané, Firmino. C'est vrai que ça tourne très bien et qu'il leur faudrait finalement pas grand-chose pour retrouver des automatismes.
Mais le but, c'est magnifique.
Il faut pas grand-chose. Mais il y a un truc qu'il faut quand même dire, c'est qu'on sent de plus en plus qu'entre Mané et Salah, il y a un fauteuil pour deux. Et qu'ils vont jouer ensemble, ils vont se faire des passes, ils vont faire le job. Mais j'ai l'impression que finalement, il n'y a plus tellement de place pour les deux dans cette équipe. Et qu'à un moment donné, la saison dernière, Mané était trois étages au-dessus. Indéniable. Oui. Championnat, Ligue des Champions, but, passe décisive, tout ce que vous voulez. Cette année, c'est ça là, qui est très fort dans le jeu, qui se remet à marquer des buts, qui est surtout important dans le jeu. Et vous avez Mané qui s'éclipse. Et finalement, vous regardez que vous comprenez que les problèmes de Liverpool, finalement, correspondent aussi aux périodes où les deux n'arrivent plus trop à s'entendre ensemble.
Ouais. Il y a deux saisons, ils avaient tous les deux marqué le même but.
C'est mon avis. C'est mon avis personnel. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça fait trois ans qu'ils sont ensemble, qu'ils ont beaucoup joué, beaucoup marqué, beaucoup gagné. Mais qu'à un moment donné, il faut que les deux prennent leur indépendance pour essayer un petit peu
ils sont arrivés
au bout de l'aventure commune. Maintenant, il faut s'émanciper un petit peu.
Alors, dans quel état d'esprit les Reds doivent-ils aborder la rencontre? La réponse du capitaine Jordan Anderson.
Leipzig est une très bonne équipe avec de très bons joueurs et un très bon entraîneur. Récemment, ils ont disputé un super match contre Manchester United. Tout le monde sait que c'est une très bonne équipe. De notre côté, nous traversons une période difficile en ce moment. Mais il y a beaucoup de bonnes choses à retenir de ces dernières semaines. Nous ne devons rien lâcher pendant 90 minutes et si nous réussissons à le faire, je pense que nous pouvons obtenir un bon résultat. Nous devons être à 100% si nous voulons décrocher quelque chose.
Bon, vous êtes d'accord avec Jordan Anderson, malgré tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que les Reds peuvent faire quelque chose contre Leipzig?
C'est pas la même compétition. Ils vont aborder différemment, même s'ils étaient dans une période difficile. Je pense qu'ils vont aborder différemment le match de Ligue des Champions. Maintenant, moi, je vois Leipzig gagner.
Après, le problème, c'est que vous jouez une équipe qui est sur une dynamique complètement opposée, en fait.
Et surtout, comme tu l'as dit, c'est une équipe. C'est-à-dire que là, quand on regarde les stats un peu de cette équipe de Leipzig, c'est l'équipe, c'est pas un joueur qui marque 50 buts et machin, c'est l'équipe en fait. Donc c'est ça qui est plus fort.
Leipzig deuxième de Bundesliga, meilleure défense du championnat. Est-ce que c'est ça la force principale des Allemands, cette solidité derrière?
Leipzig pour le coup c'est peut-être
c'est complet.
Mais en fait ils arrivent maintenant à faire les deux. C'est-à-dire que défensivement l'année dernière c'est ce qu'on leur reprochait parfois, c'est de vouloir jouer très bien, mais de laisser quand même des grands boulevards derrière. Aujourd'hui ils arrivent à tenir ça de manière assez étonnante d'ailleurs dans le système de jeu, et en plus il marque beaucoup de buts, donc il y a quand même un palier qui a été franchi par cette équipe de Leipzig. C'est ça qui est impressionnant, c'est que ça défend et en plus ça marque. Et d'ailleurs le deuxième meilleur buteur toute compétition de cette équipe, c'est un défenseur, Angelino. C'est vous dire la mentalité aussi
de cette
équipe.
Dont Pep Guardiola à Manchester City
ne voulait pas.
C'est quand même curieux pour un entraîneur comme Guardiola se passer d'un mec comme Angelino. C'est bon.
Pour vous,
il a préféré garder Mendy.
Cette attaque de Leipzig peut vraiment mettre Liverpool en difficulté ce soir.
L'attaque de Leipzig met en difficulté tout le monde. Ça c'est réglé. C'est de toute façon pas forcément l'attaque, même au milieu de terrain. C'est une équipe qui est très complète en fait. C'est-à-dire qu'on les a beaucoup commentés la saison dernière quand ils ont fait justement le Final Eight, quand on faisait les soirs en direct. C'est une équipe qui est à l'aise quand elle est à 3 derrière, quand ils sont à 4. C'est une équipe qui peut jouer avec 2 milieux. C'est une équipe qui peut jouer avec 2 pointes, qui peut jouer avec une pointe, avec des mecs sur les côtés. Ils sont systématiquement bons. En fait, ils sont complets. Il n'y a pas d'immense star là. là-dedans. Werner est parti, que ce soit Forsberg, je pense qu'il va même pas jouer d'ailleurs Forsberg, que ce soit Nkunku, que ce soit je sais pas
ou
qui
pas
d'autre,
Mécano.
Ou pas Mécano qui vient de signer au Bayern, c'est y a pas de vraie star. Mais alors ouais. Par contre, c'est un gros collectif avec un entraîneur qui a un peu une idée précise ouais, bon, de ce qu'il veut faire. Nagelsmann, c'est plutôt pas mal.
Mais quand je vois tout ça, tous ces joueurs de Leipzig, moi il y a un homme, alors je reviens un tout petit instant sur Liverpool, que j'attends beaucoup, c'est le cas Alisson. Alisson, il reste sur deux matchs totalement loupés. C'est pas qu'il s'est prétendu, mais on l'a mis très haut à juste titre, ah, oui, parce oui. qu'il a été tellement haut dans la catégorie des Neuer et autres. Mais on va voir si mentalement, il est aussi dans cette catégorie-là pour le coup. Là, il a un match pour faire taire tout le monde, entre guillemets, et montrer que c'était des accidents, que ça arrive à tout le monde, même au plus grand, et que là, il est revenu en pleine forme.
Naïm parlait de Julian Nagelsmann. Est-ce qu'il y a des points communs, donc l'entraîneur de Leipzig, pardon, est-ce qu'il y a des points communs entre Klopp et Nagelsmann, ou est-ce que ce sont deux managers, deux coachs très différents?
Non, moi je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans leur jeu, cette espèce de football total, cette espèce de sentiment de puissance où on joue, on est très porté vers l'attaque, porté vers le jeu, où on n'hésite pas à jouer avec 3-4 attaquants, avec un milieu qui est porté vers l'avant, mais aussi avec des joueurs qui travaillent défensivement, qui font coulisser le bloc vers le bas, et on bouge ensemble, on vit ensemble, on meurt ensemble avec ces joueurs-là. C'est pour ça que ces équipes-là sont des effectifs, et où Salim disait tout à l'heure, Klopp, il tourne pas trop, ça sent, les types sont vite rincés, parce qu'au final, ces mecs-là jouent tout le temps, et ils sont, faut être partout, faut être devant, faut être au milieu, faut être derrière, tu coulisses ensemble, t'attaques ensemble, tu défends ensemble. Ça, c'est le point commun qu'ils ont vraiment entre
eux. En fait, c'est la mentalité allemande. C'est-à-dire, quand tu regardes le championnat Bundesliga, les équipes qui sont au fond du classement, elles vont jouer.
Il y a Bielefeld
face au
Bayern.
Elles vont quand même jouer. Quand tu regardes le match, ouais, de Bielefeld contre le Bayern, c'est quand même, même s'il y avait la neige, même si c'est incroyable, les équipes jouent sans complexe. Elles tentent leur chance, elles vont jusqu'au bout. Et ça donne des matchs super intéressants à voir. Donc, ils ont cette mentalité allemande. Voilà. Donc, Klopp l'a emmené en Angleterre où, il y a en plus les joueurs qui courent dans tous les sens pour faire tout ça. Donc, c'est pour ça que ça a marché, dès le départ.
Saison, si tu veux faire court, s'il y avait eu Nagelsmann sur le banc de Bordeaux-Marseille dimanche, t'aurais vu des buts.
Ça aurait fait plaisir à Abby Bay hier, qui était désespéré du niveau du match. Juste sur Julian Nagelsmann, écoutez ce qu'il dit de ce qu'il disait de Liverpool hier en conférence de presse.
La récente crise de résultats de Liverpool, elle est intervenue en Première Ligue, pas en Ligue des Champions. Je pense que c'est important, car nous parlons de deux compétitions totalement différentes. En Première Ligue, après la défaite contre Leicester, Jürgen Klopp a reconnu qu'ils avaient plus ou moins perdu le titre. Du coup, ils vont se concentrer sur cette Ligue des Champions, car ils peuvent encore la remporter. Ils viendront avec beaucoup d'énergie pour essayer d'oublier ce qui leur est arrivé en championnat. Nous sommes donc prévenus, ce sera un match très disputé que nous allons jouer contre Liverpool.
Comme Julian Nagelsmann, vous pensez que le match va être très très disputé?
Oui, oui, parce que c'est un huitième de finale de Ligue des Champions entre le dauphin du championnat allemand et le champion d'Angleterre sortant. Donc oui, c'est des équipes qui vont jouer, avec 2-3 attaquants chacune. Donc logiquement, bon, ça va induire de la mobilité. On espère voir un match avec des buts. Surtout qu'en plus, si vous êtes sur terrain neutre, il n'y aura pas la contrainte du public. Vous n'allez pas vous sentir inhibé pour X ou Y, donc il va falloir y aller, quoi.
Un petit prono?
4-2 pour Leipzig.
Moi, je serais bon, 2-1 pour Leipzig.
2-2.
Ah. Moi, là, j'ai pas d'avis sur la question. j'ai pas réfléchi avant. Avant de terminer rapidement, quand même un petit mot. C'est pour Salim. Un petit mot.
Enfin, on parle de vrais thèmes dans cette émission. Enfin.
Donc la 24e journée de Premier League s'est terminée hier soir et West Ham a battu Sheffield United 3-0. West Ham 5e, même nombre de points que Chelsea 4e, juste derrière la différence de but. Ça va plutôt pas mal du côté des Hammers.
J'aime bien quand vous évoquez cela, effectivement. Non, plus sérieusement, c'est vrai que hier, bon, une victoire face à Sheffield, c'est pas forcément la chose la plus compliquée. Sheffield qui est derrière du championnat.
Sheffield, c'est une catastrophe. Sheffield.
Même si ça veut jouer. Il y a beaucoup de matchs.
Eric, je l'ai vu le match. Eric,
je peux te dire que moi, je me suis dit, mais comment les erreurs qu'ils ont fait contre West Ham dans les buts.
Si t'avais regardé, je sais pas si t'as regardé Crystal Palace samedi, crois-moi que je préfère voir Sheffield.
Je rappelle que Sheffield, il y a pas longtemps, a gagné à Old Trafford. Il y a deux, trois journées quand même, donc c'est pas risible. Mais West Ham, alors plus sérieusement, donc 5e du championnat, une équipe qui en début de saison était très critiquée parce que l'équipe ne recrutait personne, parce que personne ne partait et personne n'arrivait. Et au final, David Moyes, entraîneur en plus qui est très critiqué aussi, et au final, de manière assez étonnante, il a réussi à fédérer tous les joueurs autour de lui, les joueurs qui vraiment l'adorent, c'est pas une blague, et il est 5e avec une équipe et un jeu assez clair, assez, et des opportunités marquées de manière clinique. pas beaucoup d'opportunités, mais défensivement, ça tient 9 clean sheets depuis le début de la saison. Mais,
tu l'as dit, final, elle n'a pas changé cette équipe. Donc, du coup, il y avait une certaine base.
Ils ont quand même perdu à l'air.
Pris Lingard. Oui, au final, oui, c'est pour le coup, c'est un changement qui est indéniable cet hiver. Ils ont juste pris un arrière-droit tchèque, Vladimir Koufal. Et au final, je vous dis, cette équipe qui est claire, efficace, Issa Diop qui revient bien hier, qui a marqué son petit but. Et au final, cinquième, on se prend à rêver d'une place.
C'est ce que j'avais
vous demandé.
Tu te prends à rêver. Cinquième devant Liverpool, hein, quand même.
Mais
faut,
oui,
faut
vous faites bien de le dire quand j'aime bien.
est-ce que oui, on commence à rêver de la Champions.
Je vous confirme qu'on commence à rêver, pas qu'un peu. Il reste 14 journées à jouer. Alors après, là, il y a désormais un module de 7 journées qui arrive pour West Ham. Oui. 7 journées, 7 matchs. Face notamment à Manchester City, face dans cette période, vous allez avoir Tottenham, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Leicester et Wolverhampton et Leeds. Voilà les 7 matchs.
C'est ce qui va, déjà, ce qui va, tu seras fixé sur ton avenir.
Ce qui va aussi apporter un petit éclaircissement, un arbitrage, c'est la Coupe d'Europe. C'est que Liverpool et Chelsea, s'ils sortent dès les 8e là en Coupe d'Europe, qu'ils ont plus que la première ligue à jouer,
perdus, hein.
Je pense qu'ils y vont. Si ça se prolonge, si Liverpool sort Leipzig, si Chelsea sort l'Atlético et qu'ils jouent le PSG en 8e, ça, je dis ça comme ça, mais si jamais la Coupe d'Europe s'étend un petit peu, West Ham a un vrai coup à jouer.
Je précise que dans tout ce lot de ce top 6 en Angleterre actuellement, le seul club qui n'a pas 2 matchs à jouer par semaine, c'est West Ham. Tous les autres, Leicester, aussi à l'Europa League, parce Manchester United, Europa League, pas West Ham. Et ça peut
compter. On en parlait avant le début de l'émission sur la période que tu dis. Leeds, tu peux les taper. Bien Arsenal, sûr. Tu peux les taper. Bien United, sûr. Tu peux les taper. Tu joues ne serait-ce qu'une heure comme a joué West Brom ce week-end, tu peux les prendre.
Et Wolverhampton.
Bon, il y a City.
City, ça va être
impressionnant. Mais West Ham, non, ils peuvent faire un truc. Hein.
Je suis ému.
Et rapidement, Chelsea, ça va pas mal aussi. 4e victoire d'affilée hier, 2-0 contre Newcastle. Début d'Olivier Giroud et de Timo Werner. Mm-hmm. L'allemand.
Renaissance
beaucoup... enfin lancé.
Il a beaucoup loupé quand même.
Disons qu'il est.
Merde.
Il est convalescent, on va dire.
Non, mais Chelsea, c'est vrai que bon, hier, c'était pas un énorme adversaire Newcastle, mais une victoire tranquille 2-0. Mais surtout, depuis que Tourelle est arrivé, un seul but encaissé. Et encore, c'est Rudiger contre son camp. Mais c'est un défensivement. En fait, là aussi, c'est clair. Le 3-4-3 mis en place par Thomas Tourelle, il est simple et il est efficace, avec des joueurs qui ont été totalement relancés. Rudiger, qui est tout d'un coup redevenu un super défenseur. Azpilicueta, en axe droit dans la défense à 3, lui
c'est
aussi.
C'est un bosseur en plus.
Lui, exactement.
Kovacic,
pareil.
Ah, lui, il va falloir
Kanté,
en parler.
Je rappelle, Kanté est sur le banc avec Thomas Tourelle. Il préfère mettre notamment Kovacic au milieu de terrain et ça fonctionne.
Kovacic, il va. Mais de toute façon, je pense qu'à Chelsea, si ça se prolonge, si l'état de grâce se prolonge de Tourelle, il va quand même falloir se poser la question parce qu'entre guillemets, il va y avoir des morts dans l'effectif.
Totalement.
Tu peux pas jouer à voir Mount, Pulisic, Ziyech,
Havertz,
Kovacic, Kanté, Jorginho. Et cohabiter avec tout ça, Kovacic, c'est une évidence.
Bernard,
on peut pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais Kovacic, c'est impossible qu'il sorte de l'équipe. Mm-hmm. J'ai quand même tendance à croire que Tourelle veut relancer Jorginho.
Oui.
Je le vois pas mettre Havertz sur le banc vu ce qu'il en dit en conférence
Bernard
de presse.
Bernard non plus.
Voilà. Donc ça veut dire qu'entre Mount, entre Pulisic, entre Ziyech, même Kanté, bon, Kanté il aura des propositions, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'arrivées l'été dernier. On peut aussi avoir beaucoup de départs.
Il ne joue plus du tout, Kanté.
Oui, il joue plus. C'est vrai qu'il joue plus.
En tout cas, Chelsea qui a un calendrier un peu compliqué dans les semaines à venir
dit,
avec
relance,
United et Everton.
Et il relance Giroud. Il donne beaucoup plus de temps de jeu à Giroud que le faisait Lampard.
Ça peut être une bonne nouvelle pour l'équipe de France. On va s'arrêter là, messieurs. Merci beaucoup.
Musique de West Ham, j'entends la Ligue des Champions. Là, ça me fait penser à West Ham, ça.
Peut-être l'année prochaine. Bon match ce soir. Merci aussi à David Finzel et à Laurent Salerno. Et n'oubliez pas notre soirée spéciale sur RFI pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Prise d'antenne peu avant 20h en temps universel. FC Barcelone, Paris Saint-Germain et Leipzig, Liverpool. Demain, vous débrieferez tout ça avec Hugo Moissonnier. Passez une excellente soirée sur la Radio du Monde.
« 7 milliards de voisins ».
Chantal Laureau attend vos témoignages.